ain't nah.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Comment vas-tu?
Eh ben ça va très bien et toi?
Très bien.
Eh bien super.
Tu prends les rênes?
Je prends les rênes en fait de cette deuxième émission du mois de juin.
C'est ça.
Et on continue sur l'art, un peu Jung, etc.
Ok.
Et là on va parler un peu transcendance.
Ah ouais, carrément.
Ouais, bah oui, écoute, hein. Enfin, on va pas se gêner quand même.
Oui, on a déjà évoqué le thème. Hein.
On a déjà un peu évoqué le thème. En fait, là, je me suis penché sur l'art qui est un moyen d'arriver à une certaine transcendance, ou en tout cas de transcender certaines
ouais.
situations
mm-hmm.
qui sont plutôt compliquées, ou l'art qui nous permet d'accéder, tu sais, à cette petite lumière qu'on voit, là, qu'on cherche à retrouver tout le temps.
Ok.
Voilà. Et donc, en fouillant, j'ai trouvé un son sur les batucas du Cap-Vert.
Ouais.
Batucas du Cap-Vert, en fait, sont bah, les femmes qui se sont appropriées cette musique pour transcender des situations horribles dans lesquelles les mettait leur état d'esclave.
D'accord.
Donc, je te propose d'écouter un son que j'ai emprunté à Arte.
Oh.
Voilà, qui fait des choses. Bon, les reportages d'Arte sont super beaux.
Ouais, souvent donc, très intéressantes.
Ouais, ouais, ouais. Là, ça dure 13-14 minutes, donc vous avez le temps,
ah,
tranquille.
Oui.
Vous pouvez prendre les chips, vous pouvez prendre la bière, tout ça, il n'y okay. a pas de problème. Et vous posez pour écouter l'histoire de la batucca du Cap-Vert.
Dans les ruelles de Ciudad Velha, où résonnaient autrefois les chaînes des esclaves, le son du batouk célèbre l'âme des ancêtres. Je suis fière de jouer du batouk parce qu'il nous unit comme des sœurs en termes de culture et de musique. On a le batouk au plus profond de nous. Avec ce groupe, c'est notre héritage que nous sentons. Le batouk a une force, un poids historique et une puissance, et principalement dans le berceau de notre culture, qui est Ciudad Velha.
Inventé par les esclaves africains et enrichi par la créolité, le batouk fait partie des formes musicales les plus anciennes du Cap-Vert. Un rythme teinté de percussions et de chants qui libère le corps et l'esprit. Sur l'île de Santiago, cet art presque exclusivement féminin accompagne la vie des Cap-Verdiennes depuis maintenant 5 siècles. Gardiennes de sa mémoire, elles l'ont sauvée de l'oubli en bravant les interdits et en ont fait un symbole de résistance. En 1460, les Portugais découvrent au large du Sénégal un archipel encore vierge qu'ils nomment Cap-Vert. Ils établissent un premier peuplement dans le sud de l'île de Santiago, à l'embouchure d'une vallée fertile. Stratégiquement situés aux portes de l'océan Atlantique, la ville de Cidade Velha sert d'escale maritime à la colonisation portugaise. Avec ses maisons de pierre blanchies à la chaux, la Rua des Bananas est la première rue d'Afrique de l'Ouest construite sur un modèle européen.
Cidade Velha est un endroit mythique. On voit que chacune des pierres de cette ruelle parle et raconte une histoire. Ce sont des petites ruelles traditionnelles qui étaient des ruelles commerçantes, mais aussi où vivaient les grands propriétaires commerciaux et terriens.
Première capitale du pays, la ville se dote d'une architecture militaire pour assurer sa défense et devient un important centre religieux. Dès la fin du XVe siècle, les Portugais font de Cidade Velha un carrefour du commerce des esclaves auquel l'Église participe alors activement.
Lorsqu'on baptise un esclave, le prix de l'esclave baptisé était plus élevé que l'esclave non baptisé. En portugais, on avait l'esclave ladinizado et les esclaves bossaix. Bossaix, ça signifie brut, qui n'a pas encore reçu le baptême.
En 1530, la ville compte plus de 50 000 esclaves pour seulement 10 000 colons. Originaires d'Afrique de l'Ouest, ils transitent par la place du marché avant la grande traversée vers l'Amérique. Ce trafic négrier se déroule sur les rives du port face au pilori, symbole de cette époque tragique.
Les esclaves venaient du port et très souvent ici c'est là qu'on les vendait. Et comme au Moyen-Âge en Europe, la place du marché était aussi une place où on résolvait certains problèmes. C'est sur ce pilori qu'étaient attachés et frappés les esclaves qui étaient les plus récalcitrants.
Parmi eux, certains arrivent avec leurs tambours, des objets sacrés, traditionnellement réservés aux hommes dans la culture africaine.
Les Portugais, ils découvrent que les Africains communiquent au son des tam-tams et ils vont confisquer tous les tambours. Celui qui jouait les tambours avait la main coupée. C'est à partir de ce moment que les femmes vont perpétrer cette tradition de communiquer et elles vont commencer à utiliser leur corps et jouer le tambour. Et c'est à partir de là que naît ce qu'on appelle aujourd'hui la batuca.
La batuca, ou batouk en français, est pratiquée à l'abri du regard des maîtres. Les femmes reproduisent à l'aide de leur poitrine et de leurs cuisses les percussions des tambours. Elles y ajoutent différents rythmes pour retranscrire leurs émotions et font du batouk un élément fondateur de l'identité créole. Dans le nord de l'île, le petit port de Tarrafal est célèbre pour ses eaux cristallines. Son marché coloré témoigne des racines africaines de Santiago.
Les femmes capverdiennes sont des chefs de famille, avec leurs tissus traditionnels autour de la taille et sur la tête, les pieds bien ancrés dans le sol. Elles travaillent et luttent tous les jours pour subvenir aux besoins de leur famille.
Au cours des trois siècles d'esclavage, le batouk sort peu à peu de l'intimité des foyers et devient un outil d'expression identitaire. Dans un quotidien fait de douleur et de privation, les femmes inventent un instrument capable de reproduire le son des tambours et le transforme en un objet de lutte.
Nous n'avions rien d'autre sous la main à l'époque. Les femmes n'utilisaient pas leur voix pour dire ce qu'elles ressentaient. Alors elles ont commencé à mettre de vieux tissus dans des sacs pour former ce qu'on appelle la chabeta, qu'elles plaçaient entre leurs jambes, puis se mettaient à jouer pour soulager leur âme. Elles jouaient souvent ce batouk à l'occasion des mariages, mais aussi sur le port, en attendant le retour des pêcheurs.
Cette pratique a permis de souder les femmes du Cap-Vert.
Ay, 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 ay
À partir du 19e siècle, elles accompagnent le rythme puissant du batouk d'une danse. Chacune à leur tour, elles se lèvent et entament une chorégraphie destinée à les libérer de leurs souffrances. Cette danse nous apporte de la joie et du courage. Le rythme monte et ton sang se réchauffe pour t'apporter du bonheur et te faire oublier le passé. Le pagne autour de la taille représente la tradition et le courage des femmes capverdiennes.
Mais ces déhanchés qui mènent parfois jusqu'à la transe sont vus d'un mauvais œil par les autorités coloniales qui tentent à tout prix de les faire interdire. Dans le sud de Santiago, la bouillonnante et métissée ville de Praia est au 19e siècle la capitale du Cap-Vert. Elle concentre depuis 1858 les pouvoirs politiques, religieux et économiques de l'archipel. Dans le quartier du Plateau, ils se concentrent autour d'une seule et unique place.
C'est une place traditionnelle. Et ces places portugaises permettaient justement que toute l'aristocratie et la bourgeoisie se rencontrent autour de cette place. Et tous les gens qui ne pouvaient pas s'habiller à l'européenne n'avaient pas droit d'accéder à cette place. Tout ce qui était de l'Afrique était rejeté. Même notre manière de respirer, notre manière de parler, dérangeait le pouvoir colonial. Donc il fallait que l'on s'assimile, qu'on limite et qu'on singe le pouvoir colonial.
En 1866, malgré l'abolition de l'esclavage, les autorités décident d'imposer de nouvelles restrictions aux descendants d'esclaves. Au nom de la morale religieuse, le Conseil de Praia vote l'interdiction du batouk, coupable à ses yeux d'offense à l'ordre et à la tranquillité.
Ça sort dans le bulletin officiel. Et ce qui dérangeait beaucoup, c'était le batouk. Parce que le mot batouk signifiait tambouriner, faire beaucoup de bruit. Deuxième chose qui dérangeait les gens, c'était la danse. Et tous, ils voyaient dans cette danse quelque chose de sexuel.
Malgré son interdiction, les femmes rivalisent d'ingéniosité et continuent de le pratiquer en cachette. Et c'est une nouvelle fois le batouk qui leur donne la force de rester debout. Dans les faubourgs de Praia, s'étend sur plusieurs kilomètres le quartier populaire de São Pedro. Conçu sur le modèle des agglomérations africaines, il abrite une communauté de femmes au caractère bien trempé. Célèbres pour leur humour, on les surnomme les veuves au foulard blanc.
Nous avions toutes des maris, mais la plupart sont partis à l'étranger. Le mien est en France. Le sien est clandestin. Elle, elle a un copain, mais il n'est pas là. Et elle, elle prétend qu'elle n'a plus de mari. Ici, les hommes fuient leurs femmes comme des oiseaux.
Lorsque le Cap-Vert accède à l'indépendance en 1975, les nombreuses crises provoquées par les sécheresses ont contraint les hommes à rejoindre l'étranger, laissant femmes et enfants derrière eux. Le batouk devient alors le symbole de la résilience de celles qui restent et affrontent la vie seule. Il se pratique comme un exutoire et se dote, dans les années 80, de paroles engagées de plus en plus féministes.
Nos paroles évoquent notre vie quotidienne, pas seulement nous, mais les femmes capverdiennes en général, qui savent que la vie est pleine de souffrances. Lorsqu'on rentre du travail l'après-midi, nous sommes très fatigués. Mais quand on se réunit avec le groupe, on rigole, on s'amuse, ça nous distrait. Et sans s'en rendre compte, on est déjà le lendemain.
La tchabeta des origines, composée de tissus et de plastique, est devenue aujourd'hui un instrument à part entière. Recouverte de cuir, elle offre un meilleur son et reprend la forme des tambours des ancêtres. Les jeunes filles se glissent de plus en plus tôt au sein de ces cercles de femmes.
On peut commencer le batouk dès l'âge de 6 ans. Certains l'ont dans le sang et ressentent le besoin de se joindre à nous. Une fois que ton corps a ressenti ça, tu ne peux plus t'éloigner du batouk. C'est très important parce que nous allons mourir un jour. Plus nous le transmettons aux jeunes générations, plus elles en profiteront en pratiquant à leur tour. Elles en auront besoin pour être plus fortes. Et le batouk ne cessera jamais. Il restera dans l'âme des Cap-Verdiens.
Moi, j'aime bien cette histoire.
Moi aussi. Alors moi qui connaissais du Cap-Vert à peu près que la musique de Cesaria Evora, ouais. J'ai fait un beau voyage. Ouais, c'est incroyable cette pratique ancestrale et comment elle s'élabore au fur et à mesure de l'histoire du Cap-Vert.
Et à quoi elle sert.
Et à quoi elle sert, ouais, le côté... exutoire, ouais, c'est voilà, tu sais, incroyable.
On parlait de cette force irrépressible, ouais. Qui, la semaine dernière, tu vois, qui faisait que tu étais obligé de peindre. Tu vois, oui. Bah, c'est pareil, quoi. Tu es obligé, tu vois. Elles inventent toujours des choses pour pouvoir, ouais. Pour pouvoir dire, pour pouvoir exprimer des choses,
oui,
quoi, ce qu'elles ressentent.
Fait,
comme ça,
successivement, étape après étape. Donc, ce passage comme ça des tambours joués par les hommes qui ne peuvent plus jouer, la pratique se transmet aux femmes et comment petit à petit elles élaborent ça en différentes strates successives, c'est fou. Comment arrive la mise en jeu du corps avec la danse. Ouais, c'est super intéressant.
C'est super intéressant. Alors, maintenant, je vais te faire voyager un petit peu ailleurs. C'est juste une musique, je m'en suis souvenu il y a quelques années, ça avait eu un succès incroyable. En fait, c'est aussi des femmes européennes qui chantent des chants traditionnels bulgares. C'est le mystère des voix bulgares. Et je trouve ça, moi, ça me fait partir très haut.
C'est magnifique.
Ouais. C'est très, très beau.
Tu sais comment j'ai découvert ça, moi, dans les années 80 ?
Dis-moi.
En fait, j'écoutais beaucoup de musique post-punk, gothique.
Et ça t'a amené au mystère
ouais,
de la vulgaire.
Et tu sais comment ? Parce que j'achetais pratiquement tous les disques d'un label anglais, je ne sais pas s'il existe encore. Oui, il existe encore, je crois. Qui s'appelait 4AD, sur lequel il y avait les Cocteau Twins, Dead Can Dance, Bauhaus, des groupes comme ça. Et en fait, ce label... un moment, a ressorti cet enregistrement, le mystère des voix bulgares. Et moi, ça me parlait tellement, parce que tu comprends d'où viennent les voix de la chanteuse des Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, ou celle des Dead Can Dance, Lisa Gerrard.
Elle a fait un disque avec le mystère des voix bulgares.
Ouais, ça m'étonne pas. Mmh. Ça fait partie de ses sources d'inspiration, forcément.
Mmh. Mmh. Bon, c'est cool. Maintenant, on va enchaîner sur un son aussi de quelqu'un qui, moi, me fait planer. De toute façon, tout ce qu'il fait, ça me fait planer.
Ouais.
C'est Philip Glass.
Ouais.
Et son opéra Akhenaton, qui ouais. raconte la vie du pharaon. Et là, en fait, c'est le pharaon et Nefertiti. C'est une scène très intime. Et alors, ça, moi, c'est un pouf. Alors là, au niveau transcendance, je trouve que c'est topissime.
Allez, on y va. I breathe the sweet breath which comes forth from thy mouth. I behold thy beauty every day. It is my desire that I may be rejuvenated with life through love of thee. Give me thy hands, holding thy spirit, that I may receive it and may live by it. Call thou upon my name unto eternity, and it shall never fail.
Thank you.
Voilà. On finit sur une belle page d'amour, parce qu'en fait, c'est un poème d'amour, et puis c'est l'histoire d'amour, la déclaration de Akhenaton à Néfertiti. Et puis ça nous emmène haut, je trouve.
Ouais. Alors, moi, pareil, hein, Philip Glass, ça me transporte. Alors, c'est intéressant parce que, entre ce que tu nous as proposé au début, qui est vraiment quelque chose de viscéral,
ouais.
et Philip Glass, qui est comme une musique très savante, en fait, on a l'impression que c'est une sorte de grand écart, mais en même temps, le dénominateur commun, c'est quand même l'émotion que ça génère.
C'est ça, oui.
Moi, ce que j'ai vu de pratiquement de plus stupéfiant dans ma vie, c'est l'opéra de Philip Glass, Robert Wilson, qui a été recréé à Montpellier en 2012, autres, ouais. Je crois, entre ouais. autres. Ouais. Et c'est une expérience absolument incroyable. Ça dure des heures. Pratiquement 3 heures, je crois.
Oh, ça dure plus que ça. Je crois que ça dure 5-6 heures.
Ouais, j'ai pas vu le temps
mais
passer.
Mais on voit pas le temps passer. Non. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on se dit... Enfin, moi qui avais beaucoup traîné ma bosse quand même dans le théâtre, la scène, je me suis dit, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sur scène.
Oui. Ouais, parce que...
pouvait se permettre des choses comme ça.
Complètement. Oui, oui. Ouais, parce qu'en plus, c'est un opéra, mais ça utilise... pratiquement toutes les formes d'art, la musique, la magie des images, la vitesse, la lenteur, la répétition, c'est
complètement hypnotique.
Exactement, c'est hypnotique.
Un quart d'heure à voir un carré blanc monté au centre.
Ouais.
Et on est fasciné.
C'est ça. Quand on en parle, tu dis non, franchement, c'est pas possible. Et là, c'est ça, on est dans une sorte d'hypnose.
Ouais, c'est ça.
Et ouais, ça abolit complètement les notions de temps et d'espace. Ouais.
C'est ça. Ouais, on n'est plus là. Et tu vois, c'est peut-être ça le dénominateur commun à tout ce qu'on a dit sur l'art, c'est le retrouver l'émotion, embarquer les gens, hypnotiser, tu vois, passer au-dessus de quelque chose et les amener ailleurs.
Ben, on va finir là-dessus, Gislain.
Allez.
On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Au revoir.